Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et dorénavant, Pulps est aussi ouvert le lundi. Bonjour à tous et bienvenue sur le 80e Weekly News. Nous sommes le lundi 17 février avec moi ce soir pour vous présenter l'actu comics de la semaine. Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Ce soir au programme, dans la partie Screen News, nous parlerons de quelques annonces concernant les prochains films Marvel, mais aussi les séries DC renouvelées et casting annoncé. Et puis, nous parlerons aussi de Star Wars Rebel qui s'est un petit peu dévoilé ce week-end grâce à la Toy Fair. Dans la partie brève comics, nous parlerons de Marvel avec pas mal d'annonces concernant de nouvelles séries. Chez DC, nous parlerons de Snyder qui revient un petit peu sur son spoiler issue, ainsi que Scott Lobdell qui annonce quelques plans pour Superman et la fin de son run. Et enfin, la partie indé, retour de Fairy Quest et le planning annoncé de la troisième année de Valiant. En fin d'émission, nous ferons les mails dans la partie Comics.com, des mails ainsi que des tweets que nous avons reçus et auxquels nous répondrons. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. Et comme chaque semaine, nous allons démarrer par le What's Up. Alors, Bruno, What's Up ?
What's Up, pas très geek, mais plutôt sympathique. Ce week-end, j'étais au ski. Je suis allé à la Mongie, ça a été sympathique. Une journée où il a fait très très beau, où j'ai pu en profiter. Et après, on a quand même eu une journée pas terrible. Donc là, on s'est réfugié plutôt dans les restaurants pour manger des bonnes fondues et des bonnes raclettes. Donc un petit week-end sympathique. Côté comics, j'ai pu lire quelques petits comics que j'avais manqué la semaine dernière, dont une très bonne surprise, c'est le Winter Soldier numéro 1, qui est sorti donc mercredi dernier.
Dont on n'avait pas parlé dans le Comics Weekly.
Et qui est écrit par Rick Remender et avec des dessins de Roland Boschi, et qui se passe complètement dans les années 60, qui est centré sur le personnage de Nick Fury, l'ancien, le vrai, l'original, et sa première rencontre face au Winter Soldier. Donc vraiment un titre haletant avec un bon côté pulp, c'est espionnage, vraiment bien bien fichu et très bon dessin.
Donc c'était Winter Soldier de Bitter March, hein, ça s'appelle.
Ouais, c'est ça, et c'est une mini-série qui sera en 5 numéros et je trouve que ça vaut le coup. Alors on y note un costume du Winter Soldier qui est très proche de celui du film avec ce masque, vraiment comme dans le film. Donc du coup c'est un peu pour l'occasion, le moyen de faire le pont entre le film et le comics. Remender s'amuse bien avec le personnage et c'était une très bonne surprise.
Et puis, quel cover d'Andrew Robinson, quoi.
Ouais, les covers sont rigolotes. Il y a juste un petit truc qui me gêne un peu, c'est que le personnage en couverture, j'ai l'impression que c'est l'agent du Shield asiatique. Mais dans le comics, à l'intérieur, il a pas de moustache. Alors que là, il lui a fait une petite moustache fine. Il est un petit peu kitschouille, mais sinon, oui, les covers sont très bien.
On a la couve du prochain aussi qui est à la fin du comic et qui est c'est vraiment des couvertures très très pulps avec un jeu sur le nom Winter Soldier, sur le titre. Les couvertures sont vraiment très très belles, je trouve. L'intérieur aussi d'ailleurs.
Ouais, c'est sympa. Et puis on retrouve le vrai Nick Fury et ça fait plaisir.
Le vrai Nick Fury, c'est pas un mec black ?
Non,
c'est pas le vrai. Oh pardon, je crois. Non, mais j'essaie de me mettre à la page de Marvel et d'avoir une mémoire qui ne dure que 6 mois.
C'est vrai.
De mon côté, c'était tout, pardon, par
ouais, c'est pour tout, ton c'est WhatsApp. Tout. Parfait.
De mon côté, pour le WhatsApp, un week-end, de toute façon, déjà avec du boulot, donc forcément. Et puis une petite crève, hein, ça doit s'entendre, je pense. D'ailleurs, je m'excuse au passage si vous m'entendez tousser un petit peu durant cette émission. Un week-end où je me suis rematé toute la saison 3 de Deep Space Nine. Parce que j'avais envie de revoir la montée en puissance du Dominion. Pour ceux qui connaissent la série, qui savent de quoi je parle, j'avais envie de la revoir. Ça faisait un moment que je l'avais pas vue et je me suis rematé l'intégralité de la saison durant ces 3-4 derniers jours en faisant autre chose principalement. Mais effectivement, la montée en puissance, j'en avais un bon souvenir quand même, mais j'ai vu ça il y a 7-8 ans maintenant, peut-être un peu plus. Et j'avais oublié certains petits points et ça m'a fait plaisir de me les remettre en mémoire. Enfin bref, de la bonne sérialisation comme il le faut, peut-être avec quelques épisodes un peu faibles, mais c'est le cas dans toutes les séries de toute façon.
Ouais, j'ai jamais vu les séries Deep Space Nine, ni Voyagers, ni Next Generation. Moi, j'ai juste vu la TOS et puis les films. Mais Deep Space Nine, c'était une série qui m'intriguait parce qu'il y avait vraiment un bon buzz dessus. Ouais. Tu me
Bah,
conseillerais de la regarder maintenant? Ça a pas trop vieilli quand même. Enfin, ça.
certains effets spéciaux ont un petit peu vieilli, effectivement, mais en termes de storytelling, non, ça n'a pas vieilli, quoi. Ça n'a pas vraiment vieilli. C'est peut-être certaines fois, quand même, dans la mise en scène, on sent qu'on est plus dans une série des années 90 que dans une série des années 2000. Mais dans l'ensemble, ça se laisse regarder relativement facilement. La différence de Deep Space Nine avec les autres séries, c'est quand même que ça se passe sur une station.
Ouais.
Donc c'est fixe, ce sont les événements qui vont à eux et non
C'était
pas
très
eux qui
politique, c'est
vont. Et
ça,
c'est assez
très.
politique, ouais. Il y a eu beaucoup de comparaisons dans les années 90 entre Deep Space Nine et Babylon 5, notamment,
Ouais.
puisque bah, toutes les deux étaient sur des stations spatiales. Alors les intrigues sont politiques. Babylon 5 est beaucoup plus politique
Et qui
que.
copiait qui? Qui copiait qui? C'était qui en premier?
Bah, les deux, de mémoire, les deux sont sortis en 93, en fait.
D'accord. Ouais, mais c'était, ouais, c'est comme souvent, il y a toujours, comme il y avait eu les films sur Mars, il y en a deux qui sortent en même temps, dès qu'il y a des, ouais, en général, à Hollywood, ils font toujours, quand il y a un sujet vraiment chaud, ils font deux films concurrents, sur le même sujet. Pareil pour les séries.
Mais les implications et la façon de traiter les choses sont complètement différentes dans ces deux séries, hein, d'ailleurs. Mais il
D'accord.
y a pas mal de relations politiques dans Deep Space Nine, c'est assez intéressant. L'univers évolue bien, l'univers Star Trek évolue bien avec Deep Space Nine. Et non, non, franchement, de bonnes intrigues. Alors comme je dis, bien sûr, il y a des épisodes plus faibles, hein, des épisodes qui ne servent pas à grand-chose, peut-être. Mais c'est le cas dans toutes les séries, donc après tout.
Bah vivement
Voilà.
que J.J. Abrams revisite Deep Space Nine aussi
Bruno,
dans
je
la
te
best
raye
of.
de mes contacts. Ne lui donne pas cette mauvaise idée, s'il te plaît. Allez, on va passer à l'actu comics à proprement parler. On va démarrer avec le Screen News et une annonce Marvel. Black Widow pourrait être un des prochains films solo pour les franchises Marvel Studios pures.
Donc ça c'est une rumeur un petit peu, mais bon c'est un personnage qu'on a pu voir déjà maintenant dans trois films, mine de rien, enfin on va l'avoir dans un troisième film bientôt. Et Scarlett Johansson a quand même pas mal de charme et d'atouts. Avoir un film qui retrace sa vie, c'est son histoire peut-être avant les Avengers, ça pourrait être cool aussi.
Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est capitaliser sur le buzz, hein, puisque de toute façon, on peut pas foutre un plan d'Avengers ou quoi que ce soit sans mettre la Black Widow quelque part, donc forcément.
Ouais.
Je pense que là, Kevin Feige répond aux attentes des fans, hein, tout simplement.
Mais c'est vrai que c'est peut-être le personnage qui où on se dit il y a enfin je vois pas quel personnage vraiment populaire pourrait intégrer son film parce que tous les grands méchants de Black Widow enfin il y en a pas vraiment des hyper hyper célèbres et c'est soit souvent des méchants déjà de Captain America ou d'autres séries donc
Ouais, ou des méchants russes de son passé,
ouais
voilà.
mais ouais, je sais pas comment il pourrait rendre ça vraiment passionnant, mais bon.
Bah, je pense que la passion viendra du fait de voir que Scarlett Johansson à l'écran toute seule pendant 2 heures,
En
quoi.
petite tenue, bien moulante,
Ouais,
voilà.
mais c'est ça, hein. C'est clairement ça. Donc à voir si ce sera vraiment pour la phase 3 ou pas, puisque ils ont des plans jusqu'en 2021, alors ce sera peut-être pas pour tout de suite.
À la rigueur, peut-être faire un team-up avec Hawkeye à ce moment-là. Du coup, voilà,
Bah,
on
je
aurait
pense
les
que
deux.
c'est ce qui risque d'arriver, étant donné que Hawkeye, ça m'étonnerait qu'il puisse soutenir un film à lui tout seul.
Ouais. Puis ça permettrait peut-être de revoir l'acteur dans une autre performance que celle qu'il a dans Avengers où il a l'air constamment constipé. Donc
Il était dans Avengers, Hawkeye? Le mec qui en rajoute pas une couche du tout. Allez, continuons avec DC maintenant. Arrow est annoncé comme renouvelé pour une saison 3.
ouais, ça marche du feu de Dieu hein, cette série. En tout cas, c'est très populaire. Donc elle est déjà annoncée pour une troisième saison. Bon bah. Tant mieux pour les fans hein, de la série. Sachant
Alors,
qu'en plus,
pardon, excuse-moi.
non non, je disais qu'en plus on va avoir du Flash qui est en rapport avec Arrow aussi, qui va arriver bientôt. Non, c'est un univers qui marche bien quoi.
Alors bon, la CW se targue d'avoir 3,9 millions de téléspectateurs pour les diffusions d'Arrow. Ça peut paraître peu, hein, concernant, enfin, quand on compare avec notamment les choses comme la Fox ou ABC qui tapent sur des 10, 12 millions en moyenne maintenant. Hein, ça a quand
Ouais.
même bien baissé. Et vraiment pour les grosses séries, ils arrivent à monter à 15 ou. Parce que les 18 et les 20, c'est terminé depuis longtemps. Donc 3 millions 9, ça peut paraître peu, mais pour la CW, c'est un très 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 gros chiffre. Puisqu'en moyenne, hein, les séries, je crois, de mémoire, Smallville devait faire entre 2 et 2,5. pour les gros épisodes. Donc
ouais,
3-9.
Pas... Ouais, non, c'est mieux, ouais.
C'est nettement mieux. Ils se targuent aussi d'être les premiers sur la frange des masculines des 18-34 ans.
Ah, ça les change. Ça les change. Parce que
ça les change des.
Ouais,
puis ça... Mais ça les change aussi des 16-25.
Ouais, aussi.
Non, c'est vrai que c'est souvent le 18-34 qui est cité aux États-Unis. Ils sont donc numéro 1 sur la tranche horaire, en tout cas, où Arrow est diffusé. Et d'ailleurs, en visionnage digital, c'est-à-dire en catch-up TV, la série a augmenté de 25% par rapport à la première saison. Donc clairement, il y a une poussée de Arrow pour cette saison 2. Donc oui, clairement, une saison 3, c'est pas étonnant du tout. Autre chose que l'on apprend de la CW, certes, ce ne sont pas des franchises comics vraiment, mais il y a eu quelques comics. Supernatural, déjà renouvelé pour une saison 10 encore.
Je savais même pas que ça continuait cette série, tu vois.
J'ai pas démarré la saison 9. Déjà, la saison 8 m'a fait très mal, elle a été très longue. Je sais même pas si je verrai la saison 9. Et me dire qu'il y aura une saison 10, ça me gonfle, quoi. Mais ça commence à tourner tellement en rond déjà depuis la saison 4 que bon. Je vais peut-être légèrement spoiler un peu, mais à chaque fin de saison, c'est « Oh là là, c'est un frère qui meurt et qui va en enfer. Oh là là, la saison d'après, c'est l'autre. Et la saison d'après, c'est encore le premier. » C'est
ça
comme ça,
original.
À chaque fin de saison, ça devient vraiment répétitif et casse-couille, quoi. Il serait temps, je sais pas, j'espère, alors, n'ayant pas vu la saison 9, c'est peut-être arrivé, mais il serait peut-être temps de faire rentrer Dieu en jeu, parce que on voit le diable, on voit les anges, etc. Il faut faire venir Dieu au bout d'un moment, quoi.
Ça va être chaud, hein, quand même, pour les télé américaines, de représenter Dieu.
Ah, mais il faudrait, je pense que ce serait, enfin, pour moi, ce serait la seule chose qui pourrait me ramener vers cette série, quoi. Et Supernatural, en parlant d'augmentation digitale, donc en catch-up TV, a augmenté de 57% cette saison.
C'est un gros score, ouais.
Gros score. Alors, deux possibilités, soit plus de monde s'y intéresse, soit moins de monde la regarde en direct.
Là,
je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les chiffres. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, pour Arrow. On va passer à l'autre franchise de la CW, c'est Flash. Flash qui a fait quelques annonces de casting. Et notamment, une très très bonne annonce, c'est l'arrivée de John Wesley Shipp pour le pilote.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est un bon clin d'œil, parce que c'est quand même l'acteur qui interprétait Flash à l'époque, dans la série des années 90. Donc, ça, c'est un bon petit clin d'œil.
Un moyen peut-être se racheter peut-être. Enfin, en même temps, c'était détenu par la CBS à l'époque, mais rappelons que la série Flash s'est arrêtée soi-disant parce qu'elle coûtait trop cher, et quand la véritable raison, c'était le coming out de John Wesley Shipp. Donc peut-être un moyen de se racheter en quelque sorte.
Donc les rumeurs actuellement, ce serait peut-être qu'il prendrait le rôle de Jay Garrick. Bon, on sait que le pilote va être coécrit par Geoff Johns, qui a bien aimé quand même écrire les personnages de la Justice Society. Pour l'instant, il y a pas de confirmation sur le rôle du personnage, mais en tout cas, c'est un bon petit clin d'œil, je trouve. C'est très sympathique.
Alors voilà, les suppositions vont sur Jay Garrick, mais aussi peut-être sur le père de Barry Allen. Ce qui pourrait être marrant aussi, quoi qu'il arrive, le rôle, le fait qu'il soit le père de Flash. C'est un petit clin d'œil aussi, puisqu'il pourrait avoir un rôle récurrent si la série est bien prise par la CW, puisque malgré tout, même s'ils l'ont annoncé, tant que le pilote n'a pas été véritablement vu, ça peut toujours...
ça fait longtemps que j'avais pas vu cet acteur à l'écran. Je crois que les dernières séries dans lesquelles je l'ai vu, c'était quand il était dans Dawson. Je sais pas s'il a fait beaucoup d'autres choses depuis.
Mais... je crois qu'il a dû faire des guests par-ci, par-là, mais c'est vrai que c'est pas un acteur que l'on voit beaucoup. Autre news de casting concernant Flash, c'est l'arrivée de Tom Cavanagh dans la série Flash. Tom Cavanagh qui était le rôle principal dans la série Ed de NBC, une série qui a une assez grosse popularité aux États-Unis. C'est une série comique. Un mec que l'on voit passer un petit peu par-ci par-là dans d'autres séries.
Ouais, je connaissais pas du tout cet acteur, ni la série Ed, moi personnellement, mais...
Alors, il va jouer le rôle d'un scientifique dans les Star Labs, voilà, où il sera un mec qui sera derrière l'accélérateur de particules qu'il y a à Star Lab. Bon,
d'accord.
À voir. Et ensuite, il aura un accident et...
Ah, il va devenir méchant.
Peut-être. Peut-être pas. Il jouera le rôle de Harrison Wells, voilà, tout simplement. Donc deux noms assez connus quand même hein, pour le casting de Flash. Ce sont pas des méga stars, loin de là, mais ce sont des noms connus. Ce sont pas des illustres inconnus comme ceux dont on va parler. Enfin, en tout cas pour moi, puisque on a des annonces de casting pour le Gotham de la Fox maintenant.
Ouais,
je vais te laisser présenter tout ça, Bruno.
Ouais, ça avance un peu pour Gotham. Donc on a déjà eu pas mal, on a eu pas mal d'annonces cette semaine. Tout particulièrement le casting d'Alfred, Alfred Pennyworth, qui sera joué par l'acteur Sean Pertwee, dont la tête me dit quelque chose. C'est-à-dire que je l'ai vu dans plusieurs séries. Je crois que c'est un acteur anglais.
Mm-hmm.
Et donc il va jouer un Alfred a priori assez badass. Donc un ex-marine. Qui s'est toujours occupé de la famille de Wayne et voilà qui va devoir s'occuper du jeune Bruce Wayne. Donc bon, il a une bonne gueule, je trouve. Il a l'air un peu plus ils prennent un acteur qui est quand même plus jeune que les représentations d'Alfred qu'on a dans les autres films, sachant que ça se passe bien avant. Ça va changer un petit peu la vision qu'on aura du personnage d'Alfred. Bon, voilà, après je le connais pas plus que ça, cet acteur, effectivement.
Mais c'est surtout que Première chose à laquelle j'ai pensé en voyant cette news, c'est qu'on va être, je pense, plus proche de l'Alfred que l'on a vu dans Batman Year One, Jeff Jones.
Oui, avec le mec avec son flingue et tout, voilà, qui lui apprend limite le kung-fu, quoi. Pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était la première grosse annonce.
Rappelons quand même que Sean Pertwee est le fils de John Pertwee. Eh oui, qui avait joué le rôle du docteur.
Ah, d'accord. Ok. Bon, je connais pas non plus, mais il doit y avoir beaucoup de gens qui connaissent. Voilà. Alors, on a eu aussi deux autres personnes qui ont été annoncées au casting, comme Erin Richards, qui va jouer Barbara Keane, donc une médecin qui est fiancée à Jim Gordon.
Bah, la future Barbara Gordon. Tout simplement.
Voilà. Et également au casting a été annoncée Sabrina Guevara, qui va jouer Captain Essen, donc le chef de Gordon au sein de la police de Gotham. Deux femmes plutôt mignonnes, on va dire.
Alors Sabrina Guevara, je ne sais pas, enfin je me rappelle pas du tout l'avoir vue quelque part. En revanche, Erin Richards, je l'avais vue dans Breaking In. Elle avait un rôle assez déjanté, pareil. Avec un petit accent anglais. Alors, je sais pas si elle aura cet accent anglais ou pas, elle jouait un très bon rôle dans Breaking In, qui avait apporté un second souffle à cette seconde saison, malheureusement trop courte de cet épisode et annulée. Bien dommage.
On a également eu le premier méchant qui a été casté pour Gotham, à savoir le rôle du pingouin, Oswald Cobblepot, qui va être joué par Robin Lord Taylor, qui a une bonne tête pour le pingouin. Je trouve que je l'ai déjà vu en méchant dans plusieurs séries, je sais plus trop où, mais... Il a une tête de fou un peu, donc ça ira très bien pour le pingouin. Et donc voilà, mais après c'est pas non plus une grosse star. Et par contre l'annonce qui m'a le plus intéressé, c'est l'annonce de Bullock qui a été casté et qui va être joué par Donald Logue.
Oh que oui.
Et alors lui, ça c'est un très très bon acteur. Là en plus je venais juste de voir la dernière saison de Sons of Anarchy. Où il jouait un marshal complètement addict et complètement taré. Et ça peut faire un très très bon Bullock.
C'est clair. Il jouait aussi dans cette merveilleuse série Parents à tout prix, Grounded for Life.
Ah ouais, je connais pas trop ça.
Qui était une série plus enfin c'était plus un sitcom genre qui passerait sur
il avait les cheveux tout à fait
les cheveux un peu plus courts et c'était
il avait une tête de gentil alors que dans Sons of Anarchy il fait vraiment peur quoi, il a une tête de gros méchant badass quoi.
Mais c'est une série qui a révélé deux trois bons acteurs hein, comme justement Donald Logue hein, dont tu parlais, mais aussi celui qui faisait son frère Griffin Fazan.
D'accord. Donc c'est un bon casting pour Gotham. Ça fait au moins en tout cas.
Pas Griffin Fazan, pardon. Autant pour moi, Kevin Corrigan.
Qui était un rouquin là, c'est ça là.
Non.
Ah non. Oui, c'est celui qui joue dans Fringe.
Effectivement, celui qui a joué dans Fringe, voilà, exactement. Kevin Corrigan.
Qui a une bonne tête de bizarre aussi.
mais deux très bons acteurs hein, tous les deux.
Donc en tout cas pour Gotham, ça fait plaisir que les annonces sont vraiment centrées sur Gotham PD, c'est-à-dire à part Alfred qui est lié à Bruce Wayne, Ça nous conforte un petit peu dans l'idée où, voilà, peut-être que le côté Bruce Wayne, ça sera peut-être juste un petit fil rouge et qu'on va vraiment se tourner plus vers un vrai policier dans l'univers de Gotham.
Voilà, puis j'espère qu'on va voir Belloc tout le temps, quoi.
Ce serait bien.
Belloc en personnage principal, virer Gordon, on s'en fout. Ah, c'est le côté métalleux rebelle qui parle. Ah non, mais vraiment, là, du coup, ça me réconforte un peu avec cette série, parce que j'avais très peur avec ce jeune Bruce Wayne, hein,
Ouais,
honnêtement.
moi aussi, ça m'a réconforté avec cette série.
Encore heureux, malgré tout, qu'on est sur la Fox et pas sur la CW, parce que sinon, là, je pense que j'aurais peut-être pas testé du tout, en fait. C'est con à dire, alors qu'ils font du bon avec Arrow quand même, mais voilà. On a déjà vu Smallville sur la CW, on a vu ce que ça a donné, donc bon, laissons la chance à une autre série d'essayer de faire la même chose.
Ah
Peut-être
oui,
que
la
ce sera mieux.
Fox, bon, c'est une chaîne qui est, on dit souvent, un peu de droite quand même,
Oh
mais
bah. Je te rassure, c'est pas on dit et c'est pas qu'un peu.
il y a quand même eu de très bonnes séries, hein. Rappelons-nous que X-Files, c'était sur la Fox, 24 heures chrono, c'était sur la Fox. Donc, voilà, il y a de
Non
bonnes
mais il
choses.
y a la Fox a de voilà, a eu de très bonnes séries, et surtout la Fox a des capitaux, contrairement à la CW.
Ouais, c'est clair.
Donc
On n'aura
on
peut-être pas
peut
un Gotham en carton-pâte.
voilà, on peut espérer d'avoir quelque chose avec un minimum de moyens. Allez, terminons notre partie Screen News avec Star Wars. Star Wars qui s'est bien annoncé ce week-end lors de la Toy Fair, cette grande convention qui concerne les jouets principalement, hein, comme son nom
Ouais.
l'indique, la Toy Fair. Alors, bah, on en a su plus sur Star Wars Rebels, mais avant de passer à Star Wars Rebels, on va parler vite fait de Clone Wars. Clone Wars va débarquer sur Netflix en mars, cette dernière saison. Elle sera diffusée sur Netflix à partir du 7 mars.
D'accord, c'est la fameuse saison qui avait été annulée, qui finalement va être diffusée et qui va permettre de conclure la saga.
Alors bah pour tous ceux qui ont des VPN et qui ont un compte Netflix.
Ouais, alors il paraît que Netflix va arriver en France bientôt.
Oui, ça fait des années qu'on entend ça.
Mais oui, sinon oui, voilà, vous savez quoi faire. Sinon ça va sortir en DVD Blu-ray bientôt, de toute façon.
Oui, ou c'est trouvable aussi sur le net. Hein. Il suffit de chercher.
Voilà.
On pousse pas au crime, hein, mais tant qu'on n'aura pas Netflix de façon légale en France, je suis
Après, si c'est
désolé,
pour
quoi.
avoir du plus bel la vie sur Netflix,
Non, mais à l'heure de la mondialisation, je trouve ça inadmissible personnellement.
hein.
Voilà, on parle de mondialisation, on parle de machin. S'ils veulent éviter que les gens téléchargent, soyons honnêtes, laisser arriver Netflix en France ou proposer une véritable alternative en France, il n'y en a pas. C'est pas Canal Play qui va être une alternative à Netflix. Quand on sait notamment que Netflix prend un tiers de toute la bande passante mondiale entre 20h et 23h aux États-Unis,
Ouais, c'est
un tiers
impressionnant.
de la bande passante mondiale, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
Énorme. Bref. Passons à Star Wars Rebels. Star Wars Rebels, donc, qui s'est un petit peu dévoilé. On a vu surtout les designs des personnages grâce aux jouets qui ont été
Ouais, aux
annoncés lors de
jouets,
cette Toy
ouais.
Fair.
Ça arrive souvent comme ça d'être spoilé parfois par des jouets. Et parfois c'est un petit peu au détriment de la série parce que ça peut faire un petit peu peur.
Et puis
Donc on.
des fois ça te fait encore plus peur parce que c'est par des Lego.
Ouais, par des Lego, exactement.
Tu t'es
Donc.
fait spoil par des Lego. Oh les boules, Bruno.
Ouais, mais peut-être que les Lego vont être à nouveau mes amis parce que je pense que le film Lego là qui sort bientôt là, il a l'air vraiment pas mal quand même. À force de voir des bandes annonces et des posters dans la rue, je me dis, je pense que ça va être drôle quand même.
Non,
Il y a
Bruno,
un
comment
très
tu
bon
retournes
buzz,
ta
hein.
veste?
Non, mais il y a un très bon buzz sur ce film Lego là. Et je sens que je vais bien me marrer quand même. Mais sinon après voilà, moi je suis pas un grand grand fan des Lego. Mais par contre, on a droit à des sets assez sympas donc pour Rebels. Bon classique hein. Des sets classiques qui présentent un peu les personnages, mais du coup là c'est sous leur forme de Lego, on connaît pas très bien leurs attributs. Donc il y a deux sets qui ont été annoncés, entre autres. Par contre, il y a eu pas mal d'autres gammes de toys qui ont été présentées et qui là nous permettent de nous faire une meilleure idée un petit peu du design, à la fois du dessin animé et puis des personnages. Un design qui à première vue fait un peu plus carré encore que le dessin animé Clone Wars. Les premières images me font un petit peu peur. Surtout quand on voit cette Mandalorienne, voilà, tu sais, un peu cette Boba Fett féminine rose. Là, ça me fait un petit peu peur. Sinon, on a droit à du droïde un petit peu classique. On a droit à un héros qui ressemble un peu à Luke Skywalker, qui s'appelle Ezra. Voilà, un jeune pilote.
J'aurais dit qu'il ressemble à n'importe quel héros de n'importe quelle série animée.
Ouais, c'est ça. On a
Parce que pour moi,
droit
enfin,
à...
il a un look vraiment ultra classique,
Ah
quoi.
oui, c'est
Enfin,
ultra classique, c'est clair. C'est clair. Il y a, par contre, il y a le look de Zeb, donc un personnage qui sera dans du côté des gentils, qui lui est plutôt sympathique, et en plus c'est un petit clin d'œil puisque c'est basé sur le dessin original de Chewbacca de Ralph McQuarrie, qu'on a pu voir récemment dans la série The Star Wars chez Dark Horse. Donc une tête d'alien très différente du Chewbacca qu'on a eu après dans la série, dans les films. Et
Et puis en
on a
plus, pour
égal
couronner le tout, il a des rayures.
et en plus il a des rayures et il
Ben
a des
oui,
tatouages un peu.
parce que Zeb, il a des rayures, Zeb. Je te laisse
Ah.
réfléchir 2 secondes.
D'accord, Zeb Wells. Non,
Non,
Zeb. Zeb.
Zebre.
Ah, oh, putain, oui, bien joué. Enfin non, non, c'était
Non,
pas
non,
terrible.
mal joué, non.
Non,
Mal
non, c'était
joué,
pas
si elle n'a pas
terrible,
été
mais bon.
comprise, c'est mal joué.
Enfin, on a un look aussi, on voit le personnage de Kanan, qui sera une sorte de Han Solo, un peu badass, Jedi, avec un jetpack et tout. Donc, comme il a un jetpack, il a la classe. Et il a un bouc, et il a un catogan. Donc voilà.
Non, pitié, ne dis pas catogan, je t'en supplie. C'est tellement laid, dis que cheval, quoi.
Et enfin, on a aussi le design du méchant, qui lui c'était le premier design qui avait un peu filtré sur Internet, une sorte de Dark Maul avec un double sabre laser bizarre, et il a un bouclier. Alors le truc qu'on n'a jamais vu dans Star Wars, mais qu'il a un bouclier quoi.
Et c'est un bouclier de la force.
C'est le bouclier de la force. Voilà. Donc bon, j'aurais préféré découvrir ces personnages en voyant une bande-annonce de Rebels, plutôt qu'en les découvrant comme ça, mais ça m'a l'air vraiment enfantin en fait.
Cependant, le design du méchant, tu le vois avec toutes ces propagandes, ces teasers de propagande qu'on a eu, des espèces d'affiches qui sont cependant très bien faites, hein.
Oui, les affiches publicitaires un peu pour annoncer la série sont plutôt cool, effectivement. Ça, c'est des visuels vraiment très design. Bon, voilà, ça fait plaisir de retrouver les Stormtroopers, les classiques, pas les clones, parce que les clones j'en avais un peu marre. Donc bon, on verra. Hein,
C'est ce qu'a dit Spider-Man aussi.
oui, c'est clair, c'est clair, on a marre des clones. Donc voilà, une série Rebels qui va bientôt arriver et qui va nous inonder de produits dérivés. Ça va être la folie.
Eh oui, qui sera le moyen de faire renaître la franchise avec du neuf avant de prévoir le nouveau film.
Ouais.
Ils sont malins chez Disney, ils sont malins.
Ils sont très malins.
Voilà, c'est tout pour le Screen News. Pas de news jeux vidéo cette semaine, pas rien qui ressorte du lot vraiment.
Très
On va
calme, hein.
passer à la citation de la semaine, parce que cette semaine, il y avait une petite citation plutôt sympathique de Clancy Brown, un acteur bien connu de pas mal de séries notamment, mais aussi de quelques films, qui parle de Cowboys and Aliens, et
Ouais.
Qui en dit quand même tout le mal qu'il en a pensé, en tout cas de la façon dont la chose a été faite, puisqu'il dit que ça a été complètement, mais complètement fabriqué de toutes pièces, ce mythe que c'était un comique. À la base, quand le scénario a été donné à des producteurs, il y avait une page, et le producteur a dit ouais, ok, on le fait, mais faites un comic d'abord. Donc le comic a été sorti dans l'urgence, puis ensuite le film a été fait. Et il l'annonce en tout cas, Clancy Brown, que c'est pas du tout la première fois que ce genre de choses arrive, et que c'est quelque chose de plus en plus fréquent, et qu'actuellement les producteurs, vu le succès qu'ont les films tirés d'adaptations de comics, quand on vient leur proposer un pitch, on demande si c'est un pitch original ou si ça a été adapté d'un comic book ou d'un graphic novel, et que la meilleure réponse à donner c'est oui. Parce que sinon, c'est non. La réponse du producteur est non, elle, en tout cas.
Ah, c'est dingue, ouais. Ça a bien changé hein, quand même en quelques années. Hein. Le succès de Marvel au cinéma et des séries Walking Dead, par exemple, ça a fait changer les choses parce que pendant très longtemps, les adaptations de comics, c'était quand même un petit peu le loup. Enfin, c'était vraiment pas à la mode, quoi. Et Cowboys and Aliens, c'est vrai que c'était un cas assez horrible. Je sais que la BD est sortie en français, je crois, au moment de la sortie du film. Et c'était vraiment une grosse bouse, hein, il paraît. Donc
Pourtant,
c'était
c'était décrit
moche.
par Fred Van Lanty, hein.
Pourtant, ouais, pourtant quand même qui est quand même un nom dans les comics, mais fait à la va-vite
Boulot de
et avec
commande, quoi.
ouais. Et donc là, oui, là, Clancy Brown, il jouait dans Cowboys and Aliens, donc il sait de quoi il parle, quoi.
Non, mais voilà, c'est, je pense, ce genre de choses que l'on verra de plus en plus souvent. Le projet de, enfin, faut pas se leurrer, le projet de Grant Morrison, que d'ailleurs, j'ai toujours pas vu débarquer, hein, je crois qu'il doit pas tarder à arriver, le fameux Dinosaurs versus Aliens, enfin, ça a
Oui.
clairement été fait comme ça. Ça a clairement
Oui,
été
il y
fait
avait
comme
cette
ça. On nous annonçait
histoire.
qu'il y aurait un film en même temps que le graphic novel était annoncé pour sortir. C'est exactement la même façon de manufacturer le produit.
Ouais, la semaine dernière, on avait parlé aussi de, je sais plus, c'était David Fincher, je crois, qui avait acheté les droits d'un comics, mais
Non,
le
Bryan
comics
Singer.
c'était même, c'était Bryan Singer, voilà, mais qui était même pas encore sorti. Ça peut être un peu le même style d'histoire, quoi. Peut-être que le pitch était intéressant, et ils se sont dit bon, bah, on va en faire un comics et puis on va en faire un film aussi après dans la
Le
foulée.
pitch était intéressant, on aura dit non, mais c'est tiré d'un comic au départ. Et après, on aura dit, mais en fait, le comic n'est pas encore sorti. Mais c'est prévu pour sortir. On voit aussi hein, ce qu'a fait notamment Frank Miller avec la suite de 300.
Oui.
Peut-être un
Le
jour. Peut-être un
film
jour dans
sort bientôt, là,
vos
je crois.
bacs et sur votre écran.
Il sort bientôt, le film, en plus. Mais je crois que le comics,
Oui.
on n'est pas prêt de le voir.
Oui, à moins que le film soit repoussé de manière à attendre le comic. Je ne sais pas. C'est bon. On verra bien. Ça me fait rire, cette histoire. Ça me fait rire. Allez, on passe aux news comics purs maintenant et on commence avec Marvel. Marvel qui nous annonce que Dan Slott va faire son Year One.
Oh, carrément.
Eh oui, The Amazing Spider-Man, Year One, carrément on se fait pas chier. Year One, Learning to Crawl. C'est le nom exact de la mini-série. Ce sera une mini-série en 5 parties qui s'appellera Amazing Spider-Man 1.1 à 1.5 avec le sous-titre Year One, Learning to Crawl. Ça se passera à partir de la fin d'Amazing Fantasy XV et ça s'étalera sur une période qui va jusqu'à Amazing Spider-Man numéro 3, où l'on va découvrir des choses que l'on ne connaissait pas encore sur Peter Parker, parce que ça n'a pas
Oh.
été fait déjà 8 millions de fois, cette histoire. Et puis surtout, on va apprendre Peter Parker avait un espèce de gros némésis à l'époque que l'on n'avait jamais vu, qui est quelque chose de créé pour l'occasion et dont on n'entendra plus jamais parler, à moins que Dan Slott nous le ramène au moment où il fait revenir Peter Parker dans la série Amazing Spider-Man.
Donc il va apprendre à ramper et on va apprendre que c'est Stick en fait qui l'a formé et tout.
Enfin, ça pue tellement le fric, cette merde. Enfin, ça sent mauvais d'avance, quoi. Ça a été fait plein de fois, ce genre de choses. Il y a au moins déjà, sans déconner, il doit y avoir au moins une dizaine de trucs. J'ai pas été chercher, hein, mais il doit y avoir au moins une dizaine de trucs qui se passent sur cette fameuse période que l'on ne connaît pas bien, ou qui se passait en parallèle avec les premières aventures de Spider-Man qui nous permettaient de découvrir d'autres trucs. À chaque fois, c'était pas très bon. Je vois pas pourquoi ce serait meilleur écrit par Dan Slott.
Ouais. Mais ils auraient mieux fait d'appeler ça Year Zero, tu sais, pour faire un peu la nique à DC avec son leur zéro hier.
Ben, je pense que c'est d'une par rapport à ça, et deux, en tapant sur le nom Year One,
Ouais, bien sûr, qui est connu, quoi.
ça a tellement d'aura Year One
Donc on aura
aujourd'hui.
droit au sempiternelle couverture d'Alex Ross. Le
Ouais.
mec, il arrête pas.
Et l'intérieur sera dessiné par Ramón Pérez.
Bon, qui est pas dégueulasse, Ramón Pérez, mais.
Ah non, mais c'est pas le problème. Moi, ce qui me gêne, c'est plus que c'est comme par hasard au moment où Spider-Man revient, au moment où il y a Spider-Man au cinéma, enfin, Peter Parker revient, pardon, où il y a Spider-Man au cinéma, on te fait un Year One qui correspond au moment où il a déjà ses pouvoirs, mais qu'il n'est pas encore complètement bien assuré dans ses pouvoirs, donc, c'est-à-dire ce qu'on va voir dans le film numéro 2.
Après, il y a pas longtemps, ils ont fait le Superior Spider. Non, ils avaient fait Amazing Spider-Man 700.1 à 0.4, là.
Point 5 même.
Ça sortait toutes les semaines. Là, au moins, ça sort un par mois. Donc, c'est un peu plus digeste quand même. Ouais. Mais effectivement, ça sent la pompe à fric.
C'est vraiment dommage, quoi. Il aurait peut-être mieux valu attendre pour le sortir, ce genre de truc, ou carrément faire un graphic novel, au lieu de le
Oui,
faire une mini.
bah oui. Surtout que ça marche plutôt bien, leur système de.
Les
Bah, d'Original Graphic
OGN,
Noël, Graphic Noël, Graphic Novel,
les...
ouais, non, c'est bizarre.
Mais justement, on parle de graphic novel, on va y passer tout de suite. Le X-Men No More Humans, pardon, qui est le prochain graphic novel original à sortir chez Marvel, qui sera disponible le 7 mai, se paye le luxe d'avoir un petit teaser. Je sais pas si tu l'as regardé, Bruno.
Oh, vite fait, vite fait.
Bon, ça dure qu'une minute, hein, de toute façon.
Ouais. Mais ouais, bah oui, c'est des dessins de la Roca, donc c'est sympa, mais.
Comment trouve-t-il le temps d'avoir de dessiner une série régulière, mais en plus de bosser sur un graphic novel? Ce mec m'étonne. Ben voilà, bon, un petit coup de mise en avant de la part de Marvel pour essayer de faire vendre un maximum ce graphic novel. J'étais pas des masses intéressé au départ, et après avoir vu le teaser, je me pose la question de est-ce que j'irai voir ou pas, en fait.
Ouais, alors a priori on devrait avoir comme pour les précédents une sortie assez proche en VF, parce que je crois que je l'ai déjà vu dans les sollicitations VF. Donc ça c'est toujours un bon point au moins, qui continue Panini à faire ça. Parce que c'est vrai que les sorties américaines, je crois que le volume est assez cher, c'était 25 € le précédent et C'était beaucoup plus digeste de l'acheter en français autour de 17 euros.
Ouais.
Après, le pitch est intéressant, on va dire. Voilà, un monde où les mutants, ça rappelle House of M un peu, mais.
Ouais, en quelque sorte, en fait, tout simplement, les humains ont disparu du jour au lendemain. Et bah, toutes les factions de mutants en présence, c'est-à-dire les X-Men, mais les autres, bah, vont devoir essayer de savoir ce qui s'est passé, essayer de comprendre, et bah, vont peut-être un peu se fighter sur savoir faut-il ramener les humains ou pas. Voilà, bon, c'est écrit par Mike Carré, donc il y a quand même déjà du potentiel.
Ouais. Ce sera peut-être intelligent.
Ouais, on verra. On verra. On retourne sur Spider-Man 2099.
Oui, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être un autre titre Spider-Man au mois d'avril ou au mois de mai, après le retour de Amazing Spider-Man. On savait pas si Superior Spider-Man allait continuer. Et a priori, Superior Spider-Man devrait s'arrêter, vraiment. Et par contre, ce serait un titre Spider-Man 2099 qui devrait arriver. Et ça, en fait, ça a été teasé par Steve Walker dans la colonne de Superior Spider-Man 27, à la fin, dans la colonne des lettres, où il dit que Spidey 2099 arrivera peut-être plus tard dans l'année. Et ce serait une grosse surprise si c'était vrai. Et la rumeur est d'autant plus, enfin, elle a d'autant plus de base réelle, on va dire, que y a Midtone Comics qui a annoncé un triptyque par G. Scott Campbell sur des titres Spider-Man qui seraient en trois volets et dont le troisième volet était encore inédit. Donc les spéculations c'était que ce serait ce troisième titre mystérieux qui permettrait de compléter ce triptyque. Donc bon, on voit que Dan Slott a ramené 2099 sur le devant de la scène. Il est coincé à notre époque. Il y a tout ce qui concerne Alchemax qui a été bien mis en avant. Ce serait con de pas créer un titre autour de ce personnage, sachant qu'on n'a plus de titre Scarlet Spider, on n'a plus de titre Venom. Ça rajoute un personnage araignée, quoi.
Bah, la seule chose qui reste actuellement, c'est Carnage.
Ouais, qui fait des mini-séries, effectivement, ouais.
Des mini-séries. Alors, on a une mini-série, on a une annual, et puis on va voir la prochaine mini-série Deadpool versus Carnage. C'est, ouais. À la rigueur, vaut mieux du Spider-Man 2099, quoi. Enfin,
Oui, à la rigueur, oui, j'aurais préféré
autant
même
avoir
un
un
retour de
véritable
Venom,
personnage Spider-Man que, ouais, ou le retour de Venom, peu importe, mais pas Carnage, quoi. Enfin, bon.
Moi, j'ai trouvé l'arc avec le retour de 2099 dans notre époque qui était plutôt bien fichu. Du coup, ça attise ma curiosité pour un nouveau titre 2099 dans la continuité actuelle. Ça pourrait être cool. Mais faut voir quelle équipe sera sur le titre, si ça suit.
Reste, ouais, voilà, reste à voir qui sera sur le titre et quand ça débarquera. En tout cas, il y a de fortes chances que ça arrive encore, enfin, pour ajouter une petite pierre à tout ça. Des confirmations ont été demandées à Marvel directement et Marvel a simplement dit wait and see. Donc pas de démenti officiel, ce qui veut dire plutôt que c'est bien engagé.
Ouais, puis il y a un film Spider-Man qui sort bientôt.
Bah
Autant inonder le
écoutez ce
marché,
qu'on
là.
vient de dire il y a 2 minutes.
Voilà.
Allez, autre nouvelle série qui va débarquer au moment où va pas tarder à sortir un nouveau film. Comme c'est
Oui.
étrange, dis donc.
Ouais. Mais un titre un peu bizarre quand même, c'est Cyclope, qui va avoir sa propre histoire en solo, donc et qui sera écrit par Greg Rucka. Alors ça, c'est la grosse surprise.
Ouais, Greg Rucka de retour chez Marvel.
Voilà. Donc la dernière fois, on l'avait vu sur Punisher, et je crois que ça s'était pas très bien passé, il en
Ouais,
avait un peu
apparemment, elle
marre.
avait dit qu'une bosserie n'était pas prêt d'y rebosser, d'après
Voilà.
ce que je me rappelle.
Mais bon, bah là, il a l'appel de l'argent, ou l'appel de la bonne idée, je ne sais pas. Fait qu'il revient chez Marvel pour un titre centré sur le jeune Cyclope et sur un petit team-up avec son papa qui revient alors qu'on croyait qu'il était mort et qui est revenu récemment dans le dernier numéro de New X-Men. Et donc voilà, on va voir son papa corsaire.
Eh ben oui, Bendis refait exactement ce qu'avait fait Claremont. Hein.
Ils vont faire des petites aventures dans l'espace, ça va être bien.
Et puis bien sûr, Marvel met à mort l'accent sur l'espace en ce moment, puisque rappelons qu'il y a le Guardians of the Galaxy qui sort, alors il faut que tout se passe dans l'espace.
Ah oui, l'espace, c'est la mode. Il va y avoir Star Wars
Détruisez la
bientôt
Terre,
aussi.
ça ira plus vite, hein. Au moins ils y seront obligés d'y aller, quoi, dans l'espace.
Alors, moi, pour être honnête, je connais pas du tout cette période avec le père de Cyclope, Corsair. Je l'ai vu débarquer en lisant la fin de mon All New X-Men, j'étais un petit peu dubitatif. Après, il a un look assez rigolo, hein, un peu de. Il fait penser un peu à Han Solo avec les cheveux longs.
T'as jamais vu ce personnage du tout?
Non, dans mes
Oh.
lectures Marvel, X-Men, j'avais jamais vu Corsaire, mais.
Putain, mais t'as tellement de choses à rattraper, Bruno.
Eh, c'est clair, c'est clair. Et voilà. Mais c'est un peu Albator, quoi, en fait.
Bon, prochain arc de Bendis, moi je parie sur les Broods, hein, c'est la suite logique. On en reparle. On en reparle, mais à mon avis, le prochain gros arc de Bendis, ce sera les Broods. Peut-être même
Donc,
un event.
sur les broods, peut-être.
Ah bah oui, c'était dans la continuité, c'est ce qui se passe un petit peu après. Si
C'est
tu
là
suis le
aussi
plan
où
de
il y a eu
Claremont, hein.
la baleine avec des broods à l'intérieur, c'est ça, dont parlait
Oui,
Bunny?
c'est ça,
Voilà,
la baleine volante.
c'est
C'est ça. Bref, ça débarque en mai, cette série.
Ouais.
Et d'ailleurs, on n'a pas dit qu'elle serait dessinée par Russell Dauterman.
Ouais, le nom me dit rien comme ça, mais j'ai dû voir des pages de lui, mais à voir.
Autre nouvelle série. Pardon, excuse-moi.
Non, je sais pas si c'est une mini ou une ongoing. J'ai pas réussi à trouver l'info. Mais
Autre nouvelle série à débarquer bientôt, c'est Avengers Undercover.
ouais, Undercover qui est un petit peu la suite de Avengers Arena, qui va
Ah bon, pas
s'intéresser
qu'un
en.
peu.
Oui, qui est carrément la suite même, puisqu'on y retrouve la même équipe créative, hein, de toute façon.
Et puis on retrouve des personnages de Avengers Arena,
Ouais,
en
bah
tout cas ceux qui restent en vie.
les survivants, ouais, c'est ça. Et donc dans cette série, en fait, on va se rendre compte qu'il y a le baron Zemo qui va s'occuper d'une équipe de jeunes méchants, en fait, qu'il a retourné des jeunes pour en faire un peu ses suppôts. Et
Ça a du mal à passer, hein.
c'est ça.
Oh!
Et donc voilà, mais il y aura parmi les gentils normalement un traître, enfin qui va se transformer en super vilain, donc ça va être un peu le mystère.
Parce qu'à la base, certains personnages, on va dire gentils, ont décidé d'aller s'infiltrer dans ces nouveaux Masters of Evil pour voir un petit peu ce qui va s'y passer et essayer d'avoir les infos avant tout le monde. Mais au moins l'un d'entre eux va changer de camp, ça c'est sûr.
Donc toujours Denis Soples au scénario, Kev Walker au dessin, donc voilà, le premier arc, ça va être centré, je crois, sur leur revanche vis-à-vis d'Arcade. Je crois qu'ils sont un petit peu dégoûtés de ce que leur a fait subir Arcade, et surtout après la diffusion de la vidéo qui les montre s'entretuer sur Internet, donc qui fait que justement ces personnages sont devenus soit des célébrités, soit des gens que tout le monde déteste ou que tout le monde aime. Donc il y a un petit côté Hunger Games qui sera un petit peu mis en avant.
Tiens, c'était pas déjà le cas
Ouais, bah
dans la série précédente?
ça continue un
Mais
peu.
c'est normal, c'est une suite.
Voilà.
Hopeless a qualifié aussi la série de un petit peu de syndrome post-traumatique, en fait,
Ouais. Les
pour les
personnages, ouais.
personnages qui y ont participé. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient dans Avengers Arena. Voilà, on va voir le fameux syndrome post-traumatique entrer en jeu. Effectivement, je pense que c'était un petit peu perturbant ce qu'ils ont
Ouais.
vécu.
On avait pu voir un peu déjà ça dans le New X-Men avec l'arrivée d'X-23, qui était dans un sale état et pas très très bien dans sa tête. Mais là, effectivement, les personnages ont dû faire des choix et prendre des décisions qui étaient assez drastiques.
Oui.
Donc
On
ça va
peut
être
avoir un
difficile.
facteur auto-guérisseur, mais ça ne répare pas les dégâts infligés au cerveau.
C'est ça, tout
Enfin,
à fait.
à la mémoire en tout cas, on va dire. Passons à une autre mini-série qui va arriver prochainement. C'est Shang-Chi dans une nouvelle
Oui.
mini-série Deadly Hands of Kung Fu.
Voilà, donc ça c'est dingue quoi. On aura une série Iron Fist, on aura aussi une série Shang-Chi en même temps.
À quand le crossover?
Ouais, bah oui, bon, on en aura un sans doute, hein. Donc là, ce sera une mini-série, donc bah, plutôt cool, hein. Shang-Chi, c'est un personnage qui est mis pas mal en avant par Hickman dans Avengers et dans Avengers World. Il y a parmi les meilleurs épisodes d'Avengers, on a eu des épisodes où Shang-Chi était en vedette. Donc, le voir arriver et avoir sa propre série, je trouve ça plutôt cool. Donc, voilà, Deadly Hands of Kung Fu. Donc, il y aura 4 numéros. Et au niveau de l'équipe créative, nous avons Tan Engwat au dessin, qui avait dessiné X-Men Legacy. Donc, il a un style assez particulier, mais qui peut très bien s'adapter pour tout ce qui est justement Kung Fu et scène d'action.
Puis c'est vachement, enfin, le scénariste veut vraiment récupérer cette période des années 70 dans laquelle la série sortait. Je rappelle que Shang-Chi est quand même une série qui a duré une centaine de numéros, hein.
Et puis bah c'est un artiste malaisien en plus, donc il est un petit peu là. Voilà.
Oh, tellement de clichés, hein.
Et c'est écrit par Mike Benson, donc voilà, qui était un fan de Shang-Chi et de tout ce qui est film de Kung Fu Voilà, et voilà. Donc c'est.
La mini va se centrer en fait sur Shang-Chi qui veut prendre sa revanche puisque un de ses amis s'est fait tuer. Et donc il va débarquer en
Oh.
Angleterre avec l'envie de tout péter. Voilà.
Ça me fait penser à un film de Bruce Lee, ça.
C'est voulu hein, en même temps.
C'est clair.
Allez, on termine notre partie Marvel avec Disney qui, ça y est, prend ses quartiers chez Marvel en imposant ses franchises, puisqu'ils vont sortir un autre graphic novel original qui sera basé sur la série Revenge. Oui, c'est
Ouais.
une autre série qui marche sur ABC. Et donc, on va reprendre la même équipe que ce qu'il y avait eu pour le graphic novel Once Upon a Time, et on va leur faire raconter une histoire dans le monde de Revenge, cette série où une jeune fille revient dans sa ville natale après avoir vécu des choses horribles, elle garde un énorme secret, et elle va décider de faire payer tous ceux qui lui ont un petit peu porté préjudice.
Ils
Et
lui ont fait
apparemment, dans
manger son
ce...
caca.
Apparemment, elle a dû manger, je ne sais pas trop. C'est une série que je ne regarde pas,
Moi, je ne
pour être
connaissais
honnête.
pas jusqu'à lire le conducteur de l'émission.
Non, j'en avais entendu parler parce que la série a apparemment, enfin moi de ce que j'ai entendu, de plutôt bonnes critiques, mais voilà, je suis pas, voilà, j'en suis tellement que bon, j'ai pas forcément envie d'y aller. Et on va savoir un petit peu ce qui s'est passé avant qu'elle revienne en ville, dans sa ville natale, dans ce graphic novel. Voilà, on va comprendre comment elle est devenue ce qu'elle est devenue dans la série. Alors sera, est-ce que ce sera des choses qui sont reprises de la série, est-ce qu'il y aura de la nouveauté pour les fans, je ne sais pas. En tout cas, Disney impose ses franchises. C'est à la fois sympathique parce que ça fait augmenter ce qu'il y a chez Marvel, enfin ça étend l'univers, mais en même temps c'est inquiétant puisque quand est-ce qu'ils commenceront à donner des directions pour le reste de l'univers Marvel?
Moi, j'attends le crossover High School Musical Avengers.
Ah mais carrément.
Ça
Carrément. Meilleure idée du siècle. On va passer à DC du coup, hein, je pense.
ouais, c'est mieux,
Il
ouais.
est temps. Passons à DC. On a eu des annonces puisque les sollicitations commencent à tomber. On a eu des annonces concernant les quatre prochains épisodes, enfin en tout cas les quatre épisodes suivants, hein, ceux du mois de mai de Batman Eternal, surtout pour les artistes. Le
Oui.
numéro 5 sera dessiné par Andy Clark, le 6 par Trevor McCarthy, le 7 par Emmanuel Simeoni et le 8 par Guillem March. Donc quand même un casting de dessinateurs qui continue de taper dans le haut du panier.
Ouais, de très bons dessinateurs, même si du coup ils avaient tapé fort dès le début en faisant quatre numéros qui étaient dessinés par le même dessinateur. Donc on peut supposer que les quatre premiers numéros seront un arc un petit peu voilà autocontenu. Et j'espère que le passage de flambeau d'épisode en épisode par différents artistes s'expliquera d'un point de vue scénaristique, parce que c'est dommage justement de casser la continuité graphique. Mais effectivement, ils ont quand même choisi de très bons artistes. Ça me fait plaisir de voir Andy Clark sur le titre. J'ai quand les backups qu'il a fait sur les différents titres Batman, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient plutôt bien faits. Parlons Trevor McCarthy, très très bon aussi sur Batwoman. Guillem March, moi j'adore. Donc non, c'est une équipe all-star.
C'est clair. Justement, le Batman Eternal bien, avait été annoncé cette semaine, notamment dans le spoiler issue.
Ouais, qui portait bien son nom.
Oui, c'est clair. Scott Snyder nous en a parlé un petit peu, enfin nous en a parlé, on a parlé
Oui.
à tout le monde,
Il
hein.
m'a appelé tout à l'heure, on a tapé un peu la discute et tout, donc c'était cool. Donc alors du coup je vais pouvoir en parler aussi un peu de ce titre, puisque j'étais pas là pour le Weekly News, le Comics Weekly, pardon. J'ai lu le Batman Eternal, enfin le Batman 28 et je l'ai trouvé pas mal. Mais ça c'est un petit amuse-gueule, on va dire. Ce qui donne envie peut-être de voir un peu comment on en arrive là, mais j'étais quand même très frustré de pas avoir mon numéro de Zero Year qui permet de conclure le deuxième arc. Après moi je suis un petit peu comme Flo, j'ai vu dans l'article là qu'il a fait sur les ventes de comics, et il aime bien le personnage d'Harper Row. Moi je trouve qu'elle est pas désagréable. Je suis pas aussi catégorique vis-à-vis de ce personnage que Bunny ou toi. J'ai trouvé deux trois scènes sympathiques avec elle. Et dans l'interview, Snyder explique que voilà, Harper Row, c'était un personnage qu'il a amené, qu'il a créé. Et il savait pas, au début, quand il l'a créé, il savait pas exactement ce qu'il allait faire d'elle,
Ouais, c'est ça, ouais.
s'il
Foutre de
allait
ma
la
gueule, en
laisser sans
plus.
costume, si elle allait devenir Robin ou autre chose.
Bon, depuis le départ, c'était prévu. Depuis le départ.
Finalement, elle devient autre chose puisqu'elle n'est pas vraiment Robin. Elle est soi-disant cette Bluebird. Enfin, on sait pas trop, mais. Voilà, avec un. Moi j'aime bien le look en plus. Et puis j'ai trouvé sympa la petite tirade avec le coup de. Mais Batman, tu n'utilises pas d'armes à feu. Ouais, mais elle si. Ouais. Donc ça c'était marrant.
Ah ouais, ça t'a fait rire?
Ouais, moi ça me fait rire. Moi, je trouve ça cool.
Ah. Bah, j'ai envie de dire bon public alors.
Non,
Non, sérieusement, bon public. Comment
mais
Batman peut accepter ça?
oui, mais bon,
Rappelle-toi
elle.
les tirades qu'il tenait à Damian.
Oui, mais c'est pas du tout des balles qui tuent, quoi. C'est des décharges électriques qu'elle envoie, donc c'est bon, quoi. C'est Batman, il fait pire avec son batarang électrique, hein. Enfin, c'est bon, quoi.
Ouais,
Ça m'a pas
mais
choqué.
c'est le principe, quoi.
Ça m'a pas choqué. Mais donc voilà, il y avait pas mal de mystères dans ce numéro. Normalement, c'est si j'ai bien compris les précédentes interventions de Snyder vis-à-vis de ce numéro 28, c'est la situation dans laquelle se retrouvera Batman dans un an, c'est-à-dire à la fin de Batman Eternal. Donc
Ah bah
Batman
merci de nous
Eternal,
avoir spoilé 52 épisodes, connard.
c'est un peu ça. C'est le truc, c'est est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer à la fin de Batman Eternal? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aura un petit peu avant? Mais moi j'avais compris ça comme ça. Normalement dans Eternal on va comprendre ce qui est arrivé justement à la ville, d'où vient le virus, pourquoi le personnage qui est dévoilé à la fin du numéro est important. Enfin des choses qui seront comment le Kingpin a pu avoir cette identité-là. Mais effectivement c'est vrai que ça spoile du coup quand même peut-être la pas mal de choses sur la série. Donc
Alors,
ça
si
c'est
en
peut-être.
plus ça c'est vraiment la fin, je commence à me demander si je vais vraiment y aller à cette série.
Mais ça, on pourra pas le savoir tant qu'on l'aura pas lu. C'est ça le problème, c'est le piège. C'est le piège. Mais voilà. Après, il nous parle de ce personnage qui est derrière le bat-ordinateur. Il confirme que il ressemble bien à une fille. Hein. D'ailleurs, au niveau de la posture, on dirait une fille, quoi. Mais bon, il dit pas qui c'est, heureusement, parce que quand même, il va pas non plus tout spoiler. Mais voilà. Bon, après,
L'idée de Sam est tout à fait juste, je pense qu'il a raison.
moi, je pense, je serais d'accord aussi avec ce que Sam m'avait dit.
Et on va vous réinviter à écouter le Comics Weekly pour
Et pour
savoir de quoi
savoir
on
ce que
parle, parce
c'était
qu'on va pas le
exactement.
dire là.
Non. Non, non, non.
Voilà, auto-promo forcé, c'est comme ça qu'on
Exactement.
fait.
Exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé quand Snyder a dit qu'il adore ce que Anne Nocenti a fait sur Catwoman, parce que c'est quand même un scénariste qui est assez encensé sur le net, de par sa qualité des scénarios, que ce soit sur Green Arrow ou sur les autres titres sur lesquels elle a bossé. Donc voilà,
Ironie inside?
mais oui un petit peu, oui un petit peu.
Non, monsieur, je voulais juste une confirmation, même si j'avais quand même de très gros doutes.
Petit peu. Donc voilà, donc normalement on aura aussi le futur de Nightwing qui sera expliqué dans Eternal, voilà, blablabla. Et il dit qu'il faut pas déménager à Gotham, que c'est pas la ville où il faut aller s'installer. Mais bon, depuis le temps, je pense qu'on sait, hein, entre les cataclysmes, les mondes post-apocalyptiques, les invasions, les machins, les compagnies. C'est bon, quoi.
Du vent, tout ça, c'est vraiment du vent. Je suis de plus en plus déçu.
Le vent se lève. Il faut tenter de vivre.
Oula.
Alors là, je pense à mes auditeurs, à nos auditeurs. Voilà, s'ils savent d'où viennent cette superbe réplique.
Eh ben, no prize pour vous. Voilà, tout simplement. Passons à l'autre franchise qui marche, en tout cas qui fait vendre, c'est Superman. Scott Lobdell a parlé de Superman et de la fin de son run sur Superman, qui arrive très prochainement au numéro 31, puisqu'on a enfin le numéro officiel où va démarrer le run de Geoff Jones et John Romita Jr., c'est le 32.
Ouais, voilà. Et donc Lobdell doit un petit peu terminer du coup vite fait son run. Donc il est débarqué un peu de toutes les séries, hein, Lobdell. Hein. On sait toujours pas ce qu'il va faire après.
Alors lui dit qu'il a encore d'autres projets chez DC.
Ouais, mais alors les projets qu'il dit dans l'interview, c'est genre une backstory qui explique comment Jor-El a découvert la Phantom Zone ou alors comment Mister Mizzlesplitch il a perdu le contrôle de la cinquième dimension. Je pense que
Ah
c'était
non,
des
non,
blagues.
il dit qu'il a d'autres projets qui seront annoncés prochainement, mais dont il ne peut pas encore parler.
D'accord. Bon,
Et
on
qu'il ne va
verra.
pas partir à la concurrence de sitôt.
On va voir, on va voir. Il doit être bien payé. On va avoir un gros gros event Superman sur Doomsday. Donc Doomsday revient. Il va être dans tous les titres Superman. Il va être dans Action Comics, dans Superman Wonder Woman et dans Superman. La partie qui concerne Superman et donc écrite par Lobdell, ça va plus s'intéresser à la partie humaine de Superman et aux conséquences de l'arrivée de Doomsday sur son cast, que ce soit Lois Lane et compagnie. Lois Lane qui a priori devrait subir une sorte de transformation qui avait été teasée dans un précédent numéro. Donc va-t-elle se transformer en Doomsday Girl? Je sais pas, peut-être, peut-être.
Apparemment, son run devrait aussi expliquer la non-présence de Superman dans la Justice League.
Oui, voilà, bah, il aura de quoi faire en fait, et que le fait que Lex Luthor soit dans la Justice League, il va pas avoir le temps de s'en occuper. Donc il va falloir bien expliquer ça, parce que c'est quand même un petit peu dur à avaler. Mais voilà. Bon, après, voilà, moi, personnellement, ce que fait Lobdell sur Superman, c'est il y avait vraiment des hauts et des bas. J'ai tendance à beaucoup aimer ce que fait Greg Pak actuellement sur Action Comics, tout comme ce que fait Charles Soule, donc... J'espère qu'ils sont pas trop obligés de sortir un nouveau Doomsday Event. Je sais qu'on en a eu un il y a pas si longtemps, puisqu'il était tellement pourri. Le non mais l'attaque de tous les Doomsday là de l'enfer là, avec les dessins de c'était déjà les dessins de Rocafort en plus, donc bon, j'espère que ça sera mieux. J'espère que ça sera mieux.
Ouais. Ben ouais. T'y crois?
Bof. Je pense qu'il va falloir attendre le run de Jeff Jones pour peut-être voir quelque chose de frais et de nouveau. Mais bon.
Jeff Jones qui a dit hein, quand même qu'il allait resetter Superman. Donc est-ce que ça aura vraiment de l'importance que fait Lobdell?
En fait, c'est pas Superman qui l'écrit, il écrit Superman Prime. Qui va encore donner il va donner un coup dans la réalité d'essai des New 52. Il va faire go fuck yourself.
Ouais. Ouais. Ben justement, ça va commencer prématurément puisque une série est annulée. Ça y est, c'est officiel. Même si on n'avait pas non plus beaucoup d'espoir quant à la durée très longue ouais. de son, enfin la potentielle durée.
Bah c'est la fin de Justice League. Donc
ah, c'est bien sûr The Movement Green Team s'est arrêté. Ça y est. Ouais, et bien ouais. The Movement s'arrêtera en mai au numéro 12.
Voilà, donc 12 numéros pour cette série un petit peu particulière qui était écrite par Gail Simon avec des dessins de Freddy Williams 2. Voilà, une série un petit peu, on va dire, politisée avec des jeunes anarchiques dans une ville qui n'est pas la ville majeure de DC, hein, parce que ça se passait à Coral City. On n'était ni à Gotham ni à Metropolis, donc les lecteurs n'étaient pas intéressés. C'était pas une série désagréable, elle était juste mineure. Et voilà, donc elle meurt à cause du nombre de ventes qui est très faible.
Bah oui, hein, clairement. On peut pas, enfin DC ne peut pas consciemment supporter un titre qui vend pas. Voilà. C'est aussi la loi du marché.
Donc après, Gail Simon disait que c'était vraiment pas la faute de, c'est pas DC qui lui a mis le couteau sous la gorge. Ils ont été a priori très très positif envers son travail et tout, mais c'est voilà, c'est juste.
Ils l'ont laissé 12 numéros, c'est déjà plus que ce qu'il y a eu pour Green Team.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça fera un TP, un gros TP quoi.
Mais je pense que DC lui a, enfin, ça va peut-être paraître sexiste aux yeux de certains, mais ça ne l'est pas du tout. Je pense que DC lui a laissé sa chance parce que c'est Gail Simon, tout simplement, à cause de l'histoire Batgirl.
Ouais, oui,
je pense qu'il
à...
ne voulait pas la débarquer trop tôt de peur à ce que les fans rage en disant vous la virez parce que c'est une femme, vous la virez parce que vous l'aimez pas, etc. Et je pense que c'est l'histoire Bad Girl qui leur revient dans la gueule et c'est pour ça qu'ils ont laissé 12 numéros. Sinon, il y a déjà 2-3 mois qu'elle serait arrêtée cette série. Ils auraient arrêté les deux en même temps, je pense. Ah bon, ce n'est qu'un avis personnel, hein, je peux me tromper, mais.
Mais voilà, après, avec l'arrivée de deux séries hebdomadaires. Fallait s'attendre à ce qu'il y ait plein de séries qui s'arrêtent et voilà, The Movement c'est encore une série qui s'arrête et bon, elle se vendait pas, donc hop, tant pis.
Dommage pour les fans. Et j'ai envie de dire tant mieux pour les vendeurs de comic shop qui auront un truc de moins à recevoir chaque mois et à commander, un truc de moins qui se vendra pas.
C'est ça.
Je parais très cynique hein, comme ça, mais voilà, tu peux confirmer quoi.
Ah mais ça se vendait pas du tout hein. Ben, il y avait moi d'abonnés dessus et puis un autre client.
Voilà. Ouais! C'est déjà mieux que zéro, il y en avait deux. Allez, on passe à la partie indé, on va rester dans l'univers pseudo DC puisqu'on va parler de Jimmy Palmiotti et Justin Gray qui se reforment pour la 6e fois sur Kickstarter.
Oh oui, voilà, et ça marche bien. Ils ont réussi à produire pas mal de bouquins comme ça, des petits graphic novels. En général, ils sont pas très épais, c'est entre 70 et 90 pages. Et là, en fait, c'est un nouveau projet, donc il y a toujours ce côté un petit peu sexy, action, qui vraiment, c'est vraiment la marque de fabrique de Palmiotti. Et avec Kickstarter, ça leur permet d'éditer ça, d'être libre. Donc on peut avoir du nichon, on peut avoir du sexe. On peut avoir du sang, de la violence,
Et puis on peut avoir surtout des produits qui se termineront, qui ne seront pas poussés par des boîtes à continuer et à continuer, même au-delà de la qualité.
Voilà, c'est ça. Et donc le projet en question, ça s'appelle Denver. Et actuellement, il y a 22 jours encore pour le Kickstarter, mais il a déjà été réussi, puisque le but était de 31 000 dollars, il y en a déjà 33 180 dollars. Donc maintenant, si vous voulez continuer à backer le projet, c'est pour pouvoir avoir les contreparties. Voilà, maintenant c'est assuré que le projet va se faire.
Ce qui est bien, c'est que, enfin, ce qui est bien, ce sont quasiment les seuls hein, dans le milieu du comic à faire autant de projets Kickstarter et à ce que ça marche à chaque fois.
Ouais, ils ont à noter que Palmiotti et sa femme ont un site internet sur lequel ils vendent eux-mêmes leurs produits et tout, donc enfin, c'est vraiment leur petite maison à eux d'édition limite.
C'est la preuve que les projets Kickstarter marchent, parce qu'il reste encore, ça reste encore assez récent Kickstarter, et il y a encore ce problème de choses qui ont été payées et qui ne sont toujours pas sorties. Il y en a encore pas mal hein, de choses comme ça. On est certes qu'au balbutiement encore de Kickstarter vraiment, mais eux, ils ont prouvé que pour le comics, ça pouvait marcher. Il suffit juste de faire des produits de qualité, certes d'avoir un nom.
Parce que ça aide.
On peut pas débarquer comme ça sans être connu et avoir 30 000 dollars qui tombent, même si on a un très gros projet. Ça arrive, mais c'est tellement rare. Il faut avoir un nom. Et on n'est pas obligé de passer par Image aussi. Ça, c'est la preuve que ça peut marcher. On a eu d'autres exemples. On a eu The Private Eye aussi, comme ça.
Tout à fait.
Malheureusement, ils sont encore assez peu nombreux, ces projets, mais nul doute qu'à l'avenir, ça va se développer de plus en plus. On verra. On verra le succès que ça continuera à avoir. Est-ce que ce sera pas aussi une mode qui va passer d'ici 5 ans?
On verra.
En tout cas, eux, ça aura marché pour eux. Ils en auront profité. C'est très bien, parce que de toute façon, ce sont toujours des produits de qualité.
On n'a pas parlé du comics, mais a priori, ce serait une histoire qui se passerait dans le futur, une histoire d'amour, un homme qui doit retrouver la femme qu'il aime, et voilà, il va y avoir de la baston et du sexe. Voilà.
Et il y aura des dinosaures, je pense.
Peut-être. Parce que c'est Denver.
Exactement, oui.
Denver, le dernier dinosaure.
Continuons avec Kickstarter, avant qu'il ne repleuve. C'est salaud ce que je dis en plus. Puisque Paul Jenkins et Humberto Ramos vont lancer la suite de Fairy Quest.
Eh oui.
Projet qui avait démarré sur Kickstarter, justement.
Ouais, tout à fait. Et donc Fairy Quest volume 2. Pour ça, en fait, vous avez encore 29 jours pour backer le projet. Il y a 60 000 dollars de goal à atteindre, et actuellement ils en sont à presque 48 000 dollars.
Ça en fait une grosse érection quand même.
Oui,
alors ça c'était tellement facile. Je me suis mis en doute tout ça. Je fais, est-ce que je la fais, je la fais pas, je fais, oh, vas-y, allez, c'est bon.
Donc il y a de grandes chances que le projet se fasse. C'est plutôt bien parce que le premier tome, c'est vrai, laissait pas mal de suspense et pas mal de questions qui n'ont pas été répondues.
Alors Paul Jenkins l'a dit clairement, ils ont voulu le présenter en format de 56 pages comme ça, et c'était volontaire, l'histoire n'était pas finie, et ce sera pas un deuxième arc ou un truc comme ça, ce sera vraiment le deuxième chapitre, c'est une histoire qui est déjà prévue en 8 épisodes, et il le fera en 6 si vraiment ça ne marche pas, mais ils veulent vraiment sortir tous les deux les 6 chapitres au moins pour finir cette histoire complètement.
Voilà, donc sachant que pour la publication française, je sais que c'était un peu particulier puisqu'ils avaient, je crois que la version française était sortie avant la version américaine et que le précédent Kickstarter américain, ça avait été pour pouvoir financer la sortie en single. Bon, on va voir comment ça se passe, mais...
Il a expliqué qu'il y a eu énormément de problèmes aussi puisqu'ils avaient engagé quelqu'un pour s'en occuper qui les a foutus un petit peu dans la merde, qui avait dit qu'il avait expédié les produits et en fait ils ne les avaient pas expédiés. Bilan, ils ont quand même pas mal perdu d'argent avec le premier Kickstarter, notamment pour faire des envois. Il a expliqué qu'un envoi en Australie, notamment, ça leur coûtait 25 dollars.
Ouais.
Et quand il y avait un premier envoi, puis un deuxième, et puis en fait ils partaient deux fois d'un coup. Bref, du coup, pour certains, ils ont perdu jusqu'à 90 dollars sur un comic. Perdu.
Ouais,
de leur poche,
craint.
Quoi.
Ça craint, ouais.
C'est dommage. Alors, espérons que celui-ci se passera mieux. Pour eux, en tout cas.
Mais si vous voulez téléphoner à Paul Jenkins, dépensez 200 dollars, si vous voulez. Voilà, il y a plein de petites choses sympathiques. Si vous voulez être dessiné dans le comics. Dans le numéro 3, parce qu'ils ont déjà dessiné le numéro 2 a priori, je pense.
Franchement, pouvoir parler avec le scénariste au téléphone, c'est pas une mauvaise idée, je trouve, pour Kickstarter, quoi.
Ah oui, bah c'est souvent c'est vous aurez un resto, un truc comme ça, mais c'est beaucoup plus cher hein, les backers qui ont ça. Mais ouais, le coup de fil, c'est plutôt cool.
Je trouve que c'est une idée assez originale et pas mal du tout, en fait.
Donc si vous
Bon, bien sûr,
détestez Paul
maîtrise de...
Jenkins, c'est ce qu'il fait comme travail, ça vous coûte que 200 $ pour aller l'insulter. Voilà.
maîtrise de l'anglais nécessaire, évidemment.
Évidemment,
Salut Paul! What? Salut Paul!
ouais.
Le coup de fil le plus cher qui sert à rien.
Je pourrais parler à Paul Pope. Ah non, pardon, c'est pas lui.
Oh putain. Oh le mec, horrible. Ou alors pire, c'est, j'ai adoré ce que t'as fait sur Spider-Man. Oui, mais j'ai jamais bossé sur Spider-Man. J'ai pris un exemple au hasard, il a bossé sur Spider-Man. Bref. Allez, passons pour notre dernière news indé à Valiant. Valiant qui avait lancé un teaser en début de semaine qui s'appelait Valiant First. On se demandait un petit peu ce que c'était. Grosse réponse et grosse annonce. Valiant entame la troisième année de son renouveau. Et Valiant First, c'est tout simplement un moyen de lancer un nouveau numéro 1 au minimum par mois.
Ouais, le All New Valiant Now. Non, je rigole, mais ça me fait un peu peur, moi. J'étais à la fois excité et j'avais un petit peu peur pour Valiant quand j'ai vu ça. Surtout pour la diffusion en français des titres Valiant.
Alors, le truc, c'est que ils ont décidé hein, de ne pas inonder le marché, et donc pour garder un nombre de titres entre 8 et 10 maximum mensuels par mois, eh bien il y en a certains qui vont s'arrêter ou qui continueront dans des nouvelles mini-séries qui vont compter comme des numéros 1, bien évidemment. Alors en mai, nous avons la sortie de Rai numéro 1, nouvelle série régulière.
Ouais.
En juin, une mini, qui c'est aussi un event qui s'appelle Armor Hunters. Alors, Rai sera écrit par Matt Kint et dessiné par Clayton Crane. D'ailleurs, je l'ai pas précisé.
Avec une musique de Raleigh.
Oh, putain. De 1, 2, 3 soleils, monsieur.
Ouais.
Ils ont carrément fait le crossover. les pages de Clayton Crane pour Rai, tu les as regardées, j'imagine. Elles sont
oui.
Somptueuses.
C'est très beau, ouais.
Il a peint le premier arc au complet. Donc, les 4 premiers épisodes sont tous peints par Clayton Crane. C'est vraiment très très beau.
Après, je crois qu'il y a eu une polémique sur le costume, puisque le costume de Rai qu'ils ont pris, c'est le drapeau japonais qui, je crois, dans la culture japonaise, c'est un peu l'équivalent nazi la croix nazie, quoi. Donc ça a fait un petit peu polémique, mais bon. En tout cas, les dessins sont vraiment très très beaux.
En juin, nous avons donc Armor Hunters, qui sera écrit par Robert Venditti avec des dessins de Doug Braithwaite.
Ouais, pareil, grosse équipe.
Grosse équipe, hein. En juillet, vont découler d'Armor Hunters deux mini-séries qui seront tie-in à cet event. On aura Armor Hunters Bloodshot par Joe Harris et Trevor Ersine, pardon.
Ouais.
Et Armor Hunters Harbinger par Joshua Dysart et Robert Gill.
Ouais, donc c'est...
Pareil, des bonnes équipes.
Ouais, c'est cool, ouais. Trevor Ersine, ça fait plaisir, ouais.
Alors Bloodshot va s'arrêter, Bloodshot and the Hardcorps vont s'arrêter, et vont laisser la place à Bloodshot dans cette mini-série Armor Hunters.
Ça, c'est une bonne chose, effectivement.
Histoire de ne pas surcharger le marché.
Ouais, non, c'est clair, parce que c'est ça qui me faisait peur, moi. Et c'est vrai que s'ils jugulent ça en arrêtant des séries, c'est plutôt une bonne idée.
Ils le disent clairement dans toute cette longue interview qu'ils ont donnée à Newsarama, Valiant First est aussi... Pourquoi ils ont choisi ce nom? C'est tout simplement parce que beaucoup de gens leur ont dit que quand ils achetaient leurs comics, même s'ils achetaient tout DC, tout Marvel ou Image, bah c'était les titres Valiant qu'ils lisaient en premier. Et ils veulent que les gens lisent leurs titres en premier en se disant « Voilà peut-être le meilleur comic que j'aurais lu ce mois-ci ou celui que j'aurais eu le plus de plaisir à lire. » Et c'est pour ça ils veulent que dans le cœur des gens, Valiant soit en premier. Même s'ils n'auront jamais les chiffres de Marvel ou DC, d'ailleurs ce n'est pas leur but. Leur but, c'est vraiment de produire les meilleurs comics possibles. Ils essaient d'avoir le travail le plus honnête. Bon, après...
Dans les chiffres, presque tous leurs titres ont à peu près le même niveau de vente. C'est-à-dire que presque tous les lecteurs lisent tous les titres Valiant. C'est ça qui est fort, quoi.
Un truc qui m'a un petit peu dérangé, qu'ils ont annoncé dans leur interview, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui leur demandent quand est-ce qu'il y aura un nouveau point d'entrée pour que je puisse me mettre à Valiant, moi aussi, j'en entends que du bien, etc. Ça me gonfle. Putain, mais les gens, c'est vraiment des assistés aujourd'hui. Il faut leur faire des points d'entrée partout, quoi. Et prenez les séries en cours, démerdez-vous. Je sais pas.
Puis là, ça a commencé il y a pas longtemps, hein, carrément.
Mais ouais, non, mais voilà. En plus, ça a commencé il y a
cas,
pas longtemps. Les TP, les premiers TP sont pas chers.
Ouais.
Vraiment pas chers. Et puis merde, on prend un numéro, et puis voilà. Et puis on voit si ça nous plaît ou pas. Si, de toute façon, même si on comprend pas tout, on voit si on a envie d'aller voir la suite, ou de savoir ce qui s'est passé avant, ou si ça nous a pas du tout intéressé. Donc, de temps en temps, faut faire un petit, faut avoir un peu de foi, quoi. Faut tenter, tout simplement. Je sais pas. Les gens, c'est vraiment, ah, faut me faire des points d'entrée. C'est comme ça qu'on a des comics de merde façon Bendis. Hein. Ah, c'est. À force de faire des points d'entrée, on n'a plus aucune consistance, clairement. Ah bon.
Le point rentre dans le fion.
c'est les points fistfuck, en fait, c'est ça.
C'est ça.
En août, nous aurons, alors là, concept. On a deux séries complètement folles chez Valiant qui sont des séries de duo. On a Archer and Armstrong et on a Quantum and Woody. Eh bien, on va faire une équipe d'équipes et on va faire The Delinquents qui sera écrit par Fred Van Lanty et James Asmus, tous les deux, puisque ce sera un gros tandem entre Archer and Armstrong et Quantum and Woody.
Ouais, The World's Worst Team-Up, voilà. Comme ça qu'il l'appelle.
Avec des dessins de canaux en plus.
Ouais. Non, ça c'est cool ça. Je pense que ça va être la bonne rigolade quoi.
C'est clair. D'ailleurs, il corrige bien en disant que ce n'est pas deux duos, mais bien un duo et un trio, puisqu'il ne faut pas oublier la chèvre.
Mais non, la chèvre, surtout pas.
Il continue avec ce petit côté marketing très sympathique. Enfin, en septembre, nouvelle série The Death Defying Doctor Mirage numéro 1, écrit par Jen Van Meter, avec Roberto de la Torre aussi.
D'accord. Alors, Docteur Mirage, c'est une ancienne licence aussi
Oui. D'accord. Mais oui. Cette fois-ci, par contre, le personnage revient sous la forme d'une femme.
Oh.
Alors, pourquoi, comment? Eh bien, faudra le découvrir dans la série. Et ce n'est pas fini. Ils annonceront d'autres numéros 1. Il y en aura pour octobre, mais pour le moment, ils vont pas révéler tout leur plan.
Ça me fait penser à ce qu'avait fait Aspen l'année dernière, où il sortait un numéro 1 par mois, pendant un an, presque.
Ouais,
c'est
c'était
une bonne stratégie, ouais.
Bon, par contre, c'était à 1$, là, ce sera pas le cas.
Oui, ça, c'était pas mal aussi, c'est vrai. C'est, le fait de le faire à 1$, mais.
Ouais, enfin, par contre,
on aura plein de variantes, par contre.
T'avais lu de la merde aussi, t'en avais chroniqué certains dans les Comics Weekly.
Oui, mais ça fait moins chier de lire de la merde quand ça coûte $1, quand même.
Ah, mais je me rappelle que tu l'avais bien bâché, que t'avais bien regretté ton dollar, quand même.
Mais il y en avait un, ouais, je sais plus, c'était un truc dans l'espace, c'était tout pérave.
Voilà, en tout cas, on sent que ils ont envie d'essayer de faire le travail le plus honnête possible. Alors certes, c'était peut-être qu'un discours marketing. En tout cas, si c'est le cas, il était sacrément bien fait. Parce que dans cette interview, quand tu les lis tous les deux, Warren Simons et Dinesh Shamdasani, voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé, tous les deux, enfin vraiment, ils ont tellement insisté sur ce point que si c'est vraiment un discours commercial, ils ont sacrément bien répété. Moi, ça m'a donné l'impression vraiment que c'était, ça venait vraiment du plus profond d'eux, qu'ils avaient envie de faire le meilleur travail possible, même s'ils ne vendaient pas et qu'ils atteindraient jamais tous ces grands sommets de DC ou de Marvel.
Ouais. Mais en tout cas, Valiant, ce que fait Valiant actuellement, c'est vraiment du très bon boulot. Et quand on parlait lors du précédent Weekly News des problèmes éditoriaux dans les Big Two, où on voyait des grosses incohérences entre chaque titre, bon, je sais qu'il y a que Valiant n'a que 2 ans d'existence, un petit peu plus. Pour l'instant, ils arrivent vraiment à mener leur barque avec brio et voilà, ça fait plaisir.
Et d'après eux, en tout cas, on n'est pas au bout de nos surprises concernant l'univers Valiant, un univers dans lequel tout peut changer à n'importe quel moment. C'est surtout ça qui est intéressant. Ce sont pas des licences qui sont tellement assises comme Spider-Man ou Batman où on sait qu'on peut pas les modifier à un point. Là, tout est possible en fait. C'est ça qui est toujours très frais finalement. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'actu comics de la semaine. On va terminer rapidement avec le Comics.com. On commence par un mail qu'on a reçu de Cerveau qui nous dit « Je tiens à féliciter Sam et Bunny d'avoir réussi à outrepasser leur bromance envers Peter et l'effet Ned Stark du supérieur Spider-Man. Afin de réaliser qu'il s'agisse d'une série intéressante qui ose secouer le classicisme ronflant que notre pauvre vieux tisseur avait accumulé au fil des décennies. » Bah, en tout cas, ça leur fera plaisir.
Ouais, c'est clair.
Et il nous dit aussi « Merci à vous pour votre podcast sur mon robot préféré. » On rappelle à ce spécial Robocop qui est sorti la semaine dernière. Certes, pas aussi étoffé que des podcasts plus spécialistes. Je pense au podcast de Split Screen, par exemple, qui était un excellent numéro de Split Screen, 3 heures sur Robocop, qui ne s'attardait que sur les franchises ciné, un petit peu sur les franchises séries télé. Et il nous dit, mais bien exhaustif, sur la licence en elle-même, qui m'a donné envie de me la remater, d'ailleurs. Eh bien, merci déjà pour ce mail, premièrement, pour ces remerciements sur ce podcast Robocop. Moi, c'était un podcast qui me tenait à cœur. Alors, effectivement, on n'a pas fait aussi complet que Split Screen déjà parce qu'on a fait 1 heure de moins. Quand même.
Oui,
on avait un film de plus à parler.
Vous avez traité d'autres choses que des films.
Oui, puis on avait un film de plus à parler aussi.
En plus.
Voilà. Non, non, puis même, voilà, on n'a pas, on n'est pas un podcast spécialisé cinéma, clairement. Donc on n'a pas été aussi loin qu'eux, puis c'était pas le but, hein. De toute façon, il existe déjà tellement de choses. On avait envie de donner plus notre avis sur la franchise et débattre un petit peu de thèmes qui y sont abordés. À notre niveau, hein, qui n'est pas un niveau de cinéphile aguerri. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de le faire. Et justement, bah, j'en viens à vous poser une question à vous, auditeurs. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des spéciaux qui soient un peu moins centrés sur des comics, des fois? Pas à chaque fois, bien évidemment, mais quelque chose qui n'a pas forcément lien avec les comics. On a toujours essayé d'avoir un lien, quand même. Là, c'était le cas avec Robocop, ce qu'on avait fait aussi avec Star Wars précédemment. Un qui n'avait pas de lien du tout avec le comics, c'était le spécial série. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir d'autres podcast comme ça, d'autres spéciaux comme ça? Alors pas de thème en particulier, mais ça peut très bien être sur du manga, sur de la BD franco-belge, sur la philosophie grecque du 8e siècle avant Jésus-Christ.
Je préfère le 7e siècle, moi, personnellement.
Mais c'est un débat que l'on peut avoir justement dans un spécial. Enfin, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, manifestez-vous, dites-le nous, puisque voilà, on a envie de prendre des risques, mais jusqu'à une certaine limite. On veut pas faire un podcast qui ne sera pas écouté, tout simplement parce que ça nous prend du temps. Ça nous demande pas mal de recherches à faire avant, pas mal d'heures de visionnage, des fois, pour des trucs, par exemple, comme Robocop. On n'a pas envie de travailler dans le vide, hein, tout simplement. On travaille déjà assez sur les podcasts chaque semaine. On n'a pas envie de faire un numéro qui servira à rien et qui ne vous plairait pas ou qui ne serait pas écouté.
Benny, donc, il aimerait bien faire un spécial sur la nouvelle série X-Force.
Ça ou peut-être la dernière émission à la mode, genre The Voice ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, voilà, c'est ça.
Allez, comme ça il gueulera la prochaine fois et il nous remettra notre place. Donc n'hésitez pas à vous manifester, hein, que ce soit par mail, par commentaire. On est à votre écoute en tout cas, et si ça vous intéresse, eh bien on essaiera de le faire. Merci à Cerveau pour son mail. Très vite, des petites brèves tweets qui nous... Oscar M nous dit merci Bruno, et bravo à Steve et toi pour le dernier Weekly News. Bien, merci. Ouais,
voilà, qu'on a tenu de main de maître. Et, voilà. Donc, c'est un client de la boutique vraiment très sympathique qui nous écoute depuis longtemps et voilà, ça fait plaisir.
Autre tweet de Samizo Kuhei qui nous dit « Merci de lire mes tweets. Que pensez-vous de la jeunesse de Picsou ?» Autre temps, autre mœurs.
Ouais,
la jeunesse de Picsou. La réponse qui sert à rien. Vas-y Bruno, je t'en prie.
Moi je préférais quand il était riche, en fait, Picsou. Mais non, mais si, je l'ai jamais lu, en fait, la jeunesse de Picsou. Enfin si, j'ai dû la lire quand j'étais petit. Moi j'aimais bien tout ce qui était Picsou Magazine, Super Picsou Géant. J'en ai lu plein, quoi, quand j'étais petit. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas lu du Disney comme ça en bande dessinée. Et l'édition Glénat de la jeunesse de Picsou, je l'ai pas encore achetée. Tout le monde en dit tellement de bien, en particulier il y a Kiwi Kid, hein, qui
mais
est
oui,
quand même le grand fan. Je crois qu'il en a acheté 40 000 de chaque exemplaire.
Mais j'allais lui faire un gros coucou justement à Kiwi Kid, qui adore la jeunesse de Picsou, et qui avait pu réaliser son rêve de fan en rencontrant l'auteur au LCF il y a 2 ans.
Voilà. Il l'a capturé d'ailleurs. Il l'a kidnappé. Et il le tient dans son garage, je crois. Accroché au crachat à radiateur avec des menottes.
Voilà. Avec un crochet de boucher.
C'est ça.
Enfin, terminons avec Space CS qui nous demande si la coupe de merde de Bluebird dans Batman 28 n'est pas une manière de sodomiser le concept d'identité secrète. Je crois que c'est très bien résumé.
C'est abusé, attends, parce que Bluebird, elle se met du gel, en fait, une fois qu'elle a mis son costume, donc on reconnaît pas, parce qu'elle a les cheveux à plat, sinon. Moi, j'aime bien, moi, je trouve qu'elle a un bon look de punkette et tout. Moi, j'aime bien.
Faudra m'expliquer le moment où elle a réussi à mettre son gel, hein, dans l'histoire.
Bah, c'est le moment où elle a enfilé son costume, attends. Elle a le bad gel dans sa petite utility belt.
Bad gel qui a 2 utilisations, d'ailleurs.
C'est du bad gel que lui a fourni Batman.
Réécoutez le tweet, je pense que la réponse est dedans.
Il allait dans les toilettes, il lui a préparé le bad gel et puis hop.
Pourquoi faut que ça vire comme ça à chaque fois? Ouais, je m'étais pourtant dit que je vais essayer de faire un truc sérieux cette semaine. J'ai bien trop débordé la semaine dernière. Essayons de faire les choses sérieusement. En tout cas, merci à Oscar, Samizoku et Space de nous avoir envoyé ces petits tweets. Merci à Servo aussi pour son mail. Et puis, n'hésitez pas à faire comme eux sur Twitter, @ComicCity, ou par mail, podcast@comiccity.fr. Nous lirons les prochains dans le Weekly News suivant. Et puis, les suivants, bien sûr.
Ouais, tout à fait.
C'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine dose d'actu. D'ici là, suivez-nous aussi sur Facebook, puisque c'était le seul que je n'avais pas cité. Et enfin, vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes.
Ouais,
un dernier petit mot peut-être, Bruno.
Ah bah non, bah je vous remercie de nous écouter. On vous aime, voilà.
Oh, c'est tellement beau.
Voilà.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao. I step forward, you step back. I play my card, you retract. Oh, am I gonna clean up the mess? All I've got is a whole lot in chest. Do you mind when I move around? Up in the front, but just for the taste.